La semaine dernière, on a terminé en discutant ensemble la définition de la formation de disciples. Et puis, juste pour se remettre en contexte rapidement, ce qu'on voit à l'intérieur du cours, c'est vraiment de la formation de disciples dans le sens de relations de proximité intentionnelles dans le but d'aider quelqu'un à grandir comme disciple, d'accord? Ça va être intéressant pour vous, en tout cas j'espère, ce matin, l'exposé biblique, parce que j'enseigne sur les obstacles à la formation de disciples pour toute l'Assemblée, avec la vision, tout ça, on veut s'engager dans la formation de disciples. Donc, vous allez revoir des éléments qui sont là. Ça va se placer encore un petit peu plus. Mais donc, on pourrait dire, dans un sens, que tout ce qu'une église locale fait, ou en tout cas, tout ce qu'elle devrait faire, c'est pas de l'entertainment, évidemment, c'est de la formation de disciples. Que ce soit les cours, que ce soit les prédications, que ce soit même la louange, que ce soit le service, on est toujours en train d'essayer d'aider des gens à grandir dans les valeurs chrétiennes, à la stature parfaite de Christ, à ressembler de plus en plus à Christ. Deux chrétiens vont prendre un café ensemble, on pourrait dire que c'est ça qu'on doit chercher à faire aussi. On va être à l'écoute les uns des autres, les épreuves qu'on vit. Fait que dans un sens, tout ce qu'on fait vise à faire des disciples. Même lorsque je suis avec des non-chrétiens, puis que je fais juste m'assurer que mon témoignage est bon, puis tout ça, bien, à quelque part, j'ai cette vision-là de leur présenter le royaume de Dieu, les valeurs du royaume. Donc, dans un sens, tout ce qu'on fait sert à ça. Mais en même temps, de manière plus spécifique, puis clairement dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, on voit des relations qui sont plus de proximité, intentionnelles. Jésus l'a fait avec un certain nombre de disciples, avec même un cercle encore plus petit, 2-3 gars qui étaient tout près de lui. Il y avait des moments comme ça. Puis c'est des gens même qui l'ont choisi parmi les 12, d'accord? Donc, puis il mettait des tests devant eux. Il leur disait, si vous n'êtes pas prêt à tout abandonner pour me suivre, vous ne méritez pas de me suivre, vous ne devriez pas vous appeler disciple à ce moment-là. Puis, oh, la foule l'abandonne parce que la barre est trop haute, d'accord? Donc, il y a des tests, il y a des challenges pour dire, est-ce que tu veux être un disciple de Jésus-Christ? Et donc, dans le cadre de ce cours-là, ce que nous, on regarde, c'est vraiment des relations intentionnelles de proximité. Je le mets vague comme ça parce que, comme je vais le dire tout à l'heure dans l'exposé biblique, ça peut se manifester sous différentes formes. D'accord? Ça pourrait se faire, évidemment, avec mes enfants. Mais je fais une distinction entre le parent qui va juste comme prendre les moments qui passent pour enseigner ses enfants, ce qu'on doit faire, évidemment, mais avoir des moments qu'on a arrêtés pour ouvrir l'écriture avec les enfants, décider qu'on adresse un sujet avec les enfants, mais c'est une discussion qui se continue dans le temps. C'est quelque chose qu'on est en train de dialoguer ensemble. Je ne veux pas trop exposer ma famille, là, mais parce que c'est personnel, c'est leur vie à eux. Admettons, je ne sais pas, OK, je vais prendre un exemple qui ne nous concerne pas. On va dire qu'un de vos enfants vit de l'intimidation à l'école. Mais je peux juste comme prendre les situations quand ils se produisent puis essayer comme de traiter ça là puis l'aider. Mais je peux décider intentionnellement de lui dire, regarde, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans les Écritures comme ressources. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner à travers ça? Puis on va prier ensemble là-dessus régulièrement, puis on va en parler, puis on va voir quelles ressources tu devrais prendre, comment tu devrais réagir à l'école, tout ça. Là, je m'en viens très, très intentionnel. Il y a un suivi dans ma tête, je m'en vais quelque part. Donc, ça pourrait être dans le cadre avec les enfants, avec des situations qui surviennent, mais où je deviens très intentionnel, d'accord? Ça pourrait être à travers des disciplines qu'on a à la maison, où tous les soirs, on ouvre la Bible. Puis là, je pourrais dire, je suis en train vraiment de faire de la formation de disciples de manière intentionnelle. Il y a quelque chose qui est là, d'accord? Plus généralement, puis c'est là qu'on amène un challenge à l'Église, plus généralement, ça devrait se faire avec des frères et sœurs dans l'Église, d'accord? Notre réflexe à nous, humains, je crois, c'est de dire, la place la plus naturelle où faire de la formation de disciples, c'est avec mes enfants à la maison. Bien, naturel dans le sens humain, pas naturel dans le sens spirituel. Je dois le faire avec mes enfants, mais mes enfants, bon, ça c'est comme ma responsabilité, ça va de soi. Quand je me convertis, j'entre dans la famille de Dieu et je dois développer ce réflexe-là de prendre à cœur la famille de Dieu puis de considérer mes frères et sœurs comme vraiment des frères et sœurs. Ce n'est pas juste une figure de style. Puis j'ai à cœur de les voir grandir, d'accord? Alors, ce qu'on voit beaucoup dans le Nouveau Testament, ce sont des relations d'adulte à adulte, où il y a un engagement volontaire, il y a une invitation à s'engager qui est lancée, et puis il y a un suivi à travers le temps pour grandir, d'accord? Alors là, ça pourrait se faire à travers des triades, on va le voir ensemble un petit peu plus loin, des quads, ça peut se faire dans le petit groupe, si le petit groupe comprend bien, qui passe à un autre niveau que simplement partager quelques requêtes de prière puis faire le guide de discussion. Plus que ça, Jean-Paul partage quelque chose à un moment donné dans une rencontre du petit groupe. On prend le temps de s'arrêter puis adresser qu'est-ce que lui vit par rapport à ça, qu'est-ce que Dieu attend de lui, comment est-ce qu'il vit ça. On prie là-dessus ensemble puis on en reparle. Moi, je me prends des notes comme dirigeant où je sais qu'il y a quelqu'un qui va prendre du temps avec Paul pour suivre ça. Puis quelques temps plus tard, on va revenir sur ça. Comment ça va, Paul? Et là, je suis vraiment plus intentionnel dans ma formation de disciple. D'accord? C'est plus engageant aussi, c'est sûr. Donc, ça peut se faire dans ce cadre-là. Ça pourrait se faire dans le cadre d'un ministère, mais ça devient très intentionnel. Est-ce que vous avez des questions juste sur ça avant qu'on aille? C'est quoi les premiers pas? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Puis ce matin, j'ai un micro parce que les dernières fois, il y avait des interventions un petit peu longues là, pour... ne pas être enregistré, ça laisse des trous pour ceux qui l'écoutent juste en audio. Est-ce que ça va? Donc, ça se place un peu les concepts de formation disciple tels qu'on le conçoit dans l'Église ici. Et je vous dirais, c'est pas unique dans l'Assemblée. Généralement, c'est comme ça que ça va se vivre dans la majorité des Églises évangéliques. Là où il y a de la formation disciple intentionnelle, ce sont des relations de proximité où il y a un engagement, on fait un processus. Il y en a qui vont davantage avoir un programme. Tu fais quatre cours, tu fais ces cours-là avec une personne. Souvent, ça va se faire juste un à un. Rarement, on va avoir le modèle de le faire à trois ou quatre. De plus en plus, ça commence à apparaître, mais moins souvent. Et puis, généralement, la responsabilité dans les églises de la formation de disciples est portée par les curés de la place, les pasteurs. Et donc, généralement, les chrétiens pensent que ce sont les pasteurs qui doivent faire la formation de disciples. Puis les pasteurs pensent que ce sont les pasteurs qui doivent faire la formation de disciples. C'est souvent le cas. C'est intéressant. Cette semaine, j'avais une rencontre avec une dizaine de pasteurs de différentes familles d'églises. Et puis, comme c'est moi qui dirigeais la rencontre, j'en profite toujours un petit peu. J'ai dit, comment ça se passe chez vous, la formation de disciples? Est-ce que les gens voient la formation de disciples comme la responsabilité des pasteurs envers toute l'église? Ou est-ce que c'est une responsabilité partagée par tous les membres? Puis les membres s'engagent. C'est un défi dans toutes les assemblées, puis plusieurs des églises, c'était même pas dans leur radar de dire que vraiment tous les membres doivent s'investir, là. C'était pas du tout évident, d'accord? Alors souvent, ça devient un petit peu une... on retombe dans un modèle un peu catholique, là, qui dit, OK, il y a les holy guys en avant, c'est eux qui ont la responsabilité de tout ça. Mais comme on va le voir ce matin dans les Écritures à travers l'exposé, il y a une responsabilité différente pour les enseignants de la parole, les pasteurs, les anciens, mais il y a une responsabilité partagée par toute l'Assemblée de s'investir, de faire des disciples. Alors, par où on commence? Vous décidez à la fin du cours ou à un moment donné pendant le cours de dire, OK, j'embarque, je veux faire ça, je veux m'engager dans des relations intentionnelles comme ça, par où je commence? Vous commencez par la prière. Vous commencez par la prière comme le Seigneur l'a fait avant de choisir les 12. Vous commencez par la prière parce que c'est juste à travers la prière que vous allez oser continuer, persévérer. Parce que si vous ne commencez pas par la prière, c'est que vous pensez que vous pouvez le faire sans le Seigneur. Puis si vous pensez que vous pouvez le faire sans le Seigneur, il va vous enseigner en cours de route que vous n'y arriverez pas sans lui, je vous le garantis. Parce qu'il va y avoir des moments difficiles, des moments de découragement, des moments de doute. Vous allez douter de vous-même. Vous allez douter des gens qui se sont engagés avec vous. C'est la nature humaine, d'accord? Puis le Seigneur va vous apprendre progressivement que sans lui, on ne peut rien faire. Et si ce n'est pas dans les premiers mois, ça va être à travers les années. Comme je l'ai dit, c'est très challengeant d'être intentionnel dans la formation de disciples parce qu'il y a des moments de déception personnelle, il y a des moments où les autres nous déçoivent. Et donc, de placer la prière au cœur de ça dès le départ, c'est super important. Donc, moi, je vous dirais... Si vous n'avez pas commencé à prier, puis que vous avez dans l'idée de commencer, dites-vous que vous ne bougez pas avant 3 semaines. Puis commencez à prier. La seule chose que vous faites pour bouger, c'est prier. D'accord? C'est vraiment dur. C'est quelqu'un qui est venu me demander des conseils il y a quelques mois, puis il est en train de réfléchir, tout ça, il voulait prendre des décisions, puis il m'a dit, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, OK, tu ne fais rien pantoute pendant 4 semaines. 4 semaines, tout ce que tu fais, tu pries. Tu n'en parles pas à personne. 0 personnes. Tu m'en as parlé à moi, je vais prier avec toi. OK, mais tu n'en parles pas à personne. 1 semaine après, c'était fait. Là. Il avait parlé à plein de monde. Pas capable de faire ça. D'accord? C'est difficile pour nous juste de s'arrêter et de dire, Seigneur, je veux te demander de préparer mon cœur et je veux te demander de me diriger. Si vous êtes dans un petit groupe, travaillez avec le dirigeant de votre petit groupe. partagez à ceux qui dirigent votre groupe. Si vous êtes dans un ministère, admettons, puis je pense à Paul, admettons, avec les familles, ou je pense à ceux qui sont impliqués au niveau de la louange, puis vous dites, bien, ça serait dans ce cadre-là que je voudrais le faire. Je ne suis pas dans un petit groupe, je voudrais m'investir. Parlez avec les responsables du ministère. Parlez avec les responsables du groupe. Parce que, surtout dans le cadre d'un petit groupe, ils ont probablement déjà une vue, une vision un peu pastorale du groupe. Ils voient des besoins, ils connaissent des choses, ils voient peut-être des affinités. Et donc, ils vont pouvoir prier avec vous. D'accord? On fait vraiment un travail d'équipe. On travaille ensemble. Puis, des fois, les gens vont venir me voir, moi, ils vont dire, « As-tu des noms à me donner? » Je peux le faire, mais tu comprends que c'est loin. Là. À moins que ce soit des gens très près de moi, je ne connais pas tout le monde là, dans l'Église personnellement. Fait que, parlez-en avec le dirigeant de votre petit groupe, pour qu'ils puissent prier pour vous, qu'ils puissent vous conseiller s'ils voient des gens avec qui vous pourriez aller. Ensuite, continuez dans la prière en demandant à Dieu de placer sur votre cœur des noms, des personnes que vous auriez à cœur d'approcher. D'accord? Dans votre recherche, fiez-vous pas aux apparences. Vous allez être tenté d'aller chercher des gens avec qui vous avez des affinités. C'était Annie qui mentionnait, tu sais, elle posait une question, est-ce que je le fais avec des amis? Si tu veux mettre beaucoup, beaucoup de challenges sur votre amitié, c'est parfait. C'est super bon. Mais méfiez-vous pas aux apparences. Vous dites, OK, celui-là, là, me semble que ça cliquerait. Tu sais, j'arriverais à connecter avec. J'ai partagé personnellement, moi, je veux dire, il y a 10 ans, si je faisais de la formation de disciples, juste avec les gens avec qui j'ai des affinités, on va ensemble au Musée des Beaux-Arts, on lit de la philosophie, puis on aime le bon café, le bon vin. Autrement, je ne connecte pas avec vous. Tu sais. Mais là, ça ne marche pas de même. Fait que, si vous y allez sur la base des affinités, vous allez avoir des déceptions, parce que ce n'est pas les affinités qui font qu'on avance dans la foi. C'est l'engagement vers le Seigneur. C'est beaucoup plus au niveau de l'engagement. Donc, fiez-vous pas à ce que vous voyez avec vos yeux. Priez pour que Dieu vous mette à cœur des personnes. Puis on va voir, il y a des étapes à suivre pour voir si vraiment c'est là que le Seigneur vous dirige. C'est clair que Jésus ne se fiait pas aux apparences. Si vous regardez la gang qui a choisi... Il y avait un très, très mauvais jugement s'il se fie aux apparences, d'accord? Mais donc, c'est dans la prière qu'il l'a fait, il leur avait lancé des défis, il a vu, si on veut se fier à ce qu'on voit avec les yeux, il a vu leur réponse, il a vu l'engagement, il a vu qu'ils étaient prêts à sacrifier pour le suivre. L'autre élément qui est important, c'est, si ce n'est pas quelqu'un qui est déjà passé par les eaux du baptême, d'accord? Personnellement, ça c'est mon conseil pour vous, je ne prends pas d'engagement à long terme. Je ne prends pas un engagement pour 1 an, 2 ans. Je vais plutôt me dire, j'ai à cœur cette personne-là, puis on va aller prendre des cafés ensemble. Si la personne, ce n'est pas clair qu'elle a saisi l'Évangile, on a eu déjà cette conversation-là, est-ce que je peux faire un disciple de quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit-Saint? Peut-être le jour où il va recevoir l'Esprit-Saint, d'accord? Mais ça faut passer par la nouvelle naissance déjà pour répondre. Est-ce que ça veut dire que je ne fais aucune démarche pour aller vers des gens qui ne sont pas au Seigneur? Non, ce n'est pas ça que je dis. Tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas le même engagement que je vais prendre. Moi, je le fais. Là, je vais régulièrement prendre des cafés avec des gens, puis on jase de l'Évangile, puis je suis dans un petit groupe en mission, là, fait que je suis appelé à faire ça constamment. Mais je n'ai pas d'autre engagement que de les aimer. On n'a pas pris un engagement mutuel à se voir pendant 2 ans ou pendant 1 an ou quelque chose comme ça, d'accord? Et ça, c'est important. Là, ça va être un défi, là, d'accord? Il faut garder cette tension-là. Il faut que la personne prenne une décision par rapport à Christ. Maintenant, si la personne a pris une décision, est en préparation pour le baptême, hop, déjà on est dans la bonne direction. J'ai le goût de vous mettre encore au défi. Dans les 10 dernières années, ça m'a frappé le nombre de personnes qui abandonnent la foi dans le mois ou les 2 mois qui suivent leur baptême. C'est impressionnant. Puis si ça fait un bout de temps que vous êtes ici, vous connaissez les gens qui se sont fait baptiser, là, c'est très impressionnant le nombre de personnes qui montrent un beau zèle, puis là vraiment là, comme poursuivre là, jusqu'au baptême. Ils se font baptiser, puis dans le mois ou les 2 mois après, abandonnent, là, mais je ne parle pas là, qu'ils ont des combats, puis on les aide. Non, non, ils abandonnent complètement la foi. Honnêtement, au début, ça me troublait profondément. Après ça, je me disais, Jésus l'avait quand même annoncé assez clairement, là. Donc, il y a comme quelque chose qui se passe. Et, je ne sais pas, ils se sont rendus à cette étape-là, puis après, ils s'en vont. C'est surprenant. Donc, idéalement, je prends un engagement avec quelqu'un qui est passé par les eaux du baptême puis qui veut grandir dans sa foi, idéalement. Dans les autres cas, pour moi, c'est une démarche soit d'évangélisation, soit exploratoire. D'accord? Avez-vous des questions sur ça? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça? Vous avez le droit d'être pas d'accord. Thank you. Je sais pas si. Il est-tu allumé? Un.
Je comprends pas trop la différence d'approche entre les deux. Si vous pourriez juste expliquer, parce que on a eu une situation justement dans le petit groupe là, dans un groupe de coaching où on a incorporé une dame qui était pas tout à fait solide dans sa foi encore. C'était difficile de savoir qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle perde la foi après. Puis elle a vraiment abandonné. Fait que je sais pas, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu veux dire par idéalement on a une autre approche là avec les groupes qui sont.
Je vais essayer de clarifier. C'est au niveau de l'engagement. Ça veut dire, admettons, on va dire que moi je suis en train de faire de la formation disciple avec deux gars. C'est clair qu'ils sont au Seigneur, se sont fait baptiser, marchent avec le Seigneur, tout ça. Puis on est dans notre petit groupe en mission. Puis là il y a un gars qui se présente, puis il cherche, il est en cheminement, tout ça. Je pourrais décider, en jasant avec les deux autres gars, de l'inviter à se joindre à nous. Mais dans ce que je lui présenterais à cette personne-là, cette troisième personne-là, je ne lui présenterais pas « Est-ce que tu veux te joindre à notre groupe de coaching pour les deux prochaines années? » Je lui dirais « Est-ce que tu veux venir prendre des cafés avec nous? On étudie la Bible, tout ça. » Puis les gars qui sont avec moi sauraient qu'on est là pour faire un bout de chemin avec lui, pour voir comment il va répondre à l'Évangile, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Si on se dit « OK, finalement, ce qu'il retient de ça pour l'instant, c'est qu'il veut lire la Bible, il veut nous observer. » Et nous, on va continuer notre coaching ensemble. Puis de temps en temps, il y en a un de nous autres qui va aller prendre un café avec lui, tout ça. Mais de prendre l'engagement comme avec quelqu'un qui a choisi de marcher comme un enfant de Dieu, qui a choisi d'être un disciple, avec quelqu'un qui n'a pas pris cette décision-là encore, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Je vais arriver à cette personne-là à un certain moment donné, puis je vais dire, regarde, ça fait longtemps que tu nous parles de ce péché-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de repentance. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de repentance. Puis à quelque part, tu dois attrister le Saint-Esprit. Il n'est même pas chrétien. Il attriste le Saint-Esprit chaque jour de sa vie. Il n'est même pas chrétien. J'ai pas d'affaire à mettre cette pression-là sur cette personne-là. Je la traite comme si la personne avait déjà pris un engagement vers Christ. « Oui, mais tu m'as dit que tu allais porter ta croix puis suivre Jésus jusqu'à la mort. » Je t'ai jamais dit ça. Je suis en train de découvrir c'est quoi le christianisme. Donc c'est ça. C'est là, je vois vraiment dans les évangiles que Jésus lance des défis progressifs d'engagement envers lui. Puis ces défis-là, relevés ou non, déterminent comme l'engagement de Jésus envers eux aussi. Fait que pour Jésus, il y a la foule. Il y a la foule des disciples. Puis il y a ceux qui sont vraiment près de lui, avec qui il est là tous les jours. Est-ce que ça clarifie un peu Charity? Merci. Oui, Annie.
Bien, je pense que je sais de quoi tu parles, Charity. Mais je pense qu'il y a des cas où est-ce que c'est un plus un judas que tu as dans ton groupe. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu as des gens qui ont été à travers les eaux du baptême, ils se sont impliqués dans un petit groupe, tu les intègres dans ton groupe de coaching, puis à un moment donné, ils s'en vont. Mais ça fait partie de...
Oui, c'est ça. Alors, OK, merci pour la nuance. Des gens qui abandonnent la foi après un an, deux ans, trois ans de vie chrétienne, après s'être fait baptiser, après avoir servi dans l'Église, après avoir pris les cours de Saint-Bec, après avoir été pasteur. Il y en a. Mais là, je veux dire, personne n'a ici là, qui a une garantie absolue de la persévérance finale des saints. On le sait à la mort, puis ça va être plus sûr rendu de l'autre bord. D'accord? Donc, oui, il va y avoir des gens avec qui on va s'engager, porte des fruits, on n'a aucun doute, puis progressivement, il va se passer quelque chose, puis je peux avoir quelqu'un qui se fait mettre en discipline que j'étais en train de coacher. Puis encore là, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas chrétienne? Je vais me comporter envers elle comme si elle ne l'était pas, dans le but qu'elle se repente, peut-être qu'elle va revenir à la foi. Donc, comme on pourrait dire là, que si on veut prendre cette situation-là comme une catégorie, on en a trois. Là. La personne qui n'a pas encore pris une décision explicitement, elle le sait, elle n'a pas pris encore une décision. On a la personne qui a pris toutes les décisions, mais ça se peut qu'en cours de route, elle abandonne la foi. Hein, c'est possible. Puis tu as la personne qui va persévérer. D'accord? Puis c'est parce qu'on s'engage, nous, affectivement, intentionnellement, avec tous ces genres de personnes-là, ce qu'on est nous-mêmes, là, remarquez bien, hein? C'est pour ça que c'est challengeant la formation de disciples. Parce qu'il y a des déceptions, des fois tu as l'impression, mais boy, on n'avance pas vite, tout ça. Fait que, mais c'est ça la vision, puis c'est ça, moi je vous dirais que c'est ça qu'il y a de plus beau dans l'Église. C'est de voir des gens qui, oui, tranquillement, souvent, mais grandissent dans la foi, puis à travers les luttes, puis à travers ces engagements-là, persévèrent aussi dans la foi. Donc, À moins qu'il ne s'agisse, je suis à la page 2 de la leçon 3, si je ne m'abuse, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne qui n'est pas encore passée par les eaux du baptême, rechercher des personnes qui démontrent qu'elles sont prêtes à payer le prix de la marche chrétienne. C'est le niveau d'engagement, c'est de ça dont on parle depuis plusieurs minutes. Si au contraire, vous êtes en train d'accompagner une personne qui commence dans son cheminement, c'est plus au niveau de l'exploration, bien, je pourrais prendre le matériel de la foi chrétienne expliqué. Vous pouvez aller suivre ce cours-là dans le but d'utiliser le matériel vous-même. Après, avec quelqu'un, je pourrais prendre l'homme sur le chemin d'Emmaüs. On peut juste ouvrir les Écritures ensemble puis passer à travers un évangile. D'accord? Mais il n'y a pas un engagement encore. Puis je peux le faire avec quelqu'un d'autre en qui je suis en train de m'investir au niveau de la formation de disciples. La décision de passer par les eaux du baptême est un indice important de l'engagement d'une personne envers le Seigneur. Une fois que la personne l'a fait, ben, j'ai pas à mettre d'autres critères, j'ai pas à mettre des conditions vraiment. La personne a pris cet engagement-là. S'il s'avérait en cours de route qu'elle n'a pas bien compris le baptême, puis que dans le fond, elle s'était pas vraiment engagée, ça servira à ça. D'accord? Il faut accepter que les abandons de coaching, les gens qui vont abandonner, à première vue, sur le moment, ça peut avoir de l'air super négatif. Mais si la personne réalise qu'elle n'est pas chrétienne, mes amis, vous y avez rendu le plus grand service de la terre, est-ce qu'on s'entend? Elle meurt le lendemain, elle pensait qu'elle était chrétienne, elle est mal prise. Lorsque, je l'ai déjà dit à plusieurs fois à l'Assemblée, lorsqu'on met quelqu'un en discipline, d'accord, jusqu'à lui demander de se retirer de l'Assemblée, admettons, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire à cette personne-là ce que Dieu va lui dire avant qu'elle arrive au ciel. On lui dit d'avance, pour qu'elle ait l'opportunité de se repentir puis être avec nous pour l'éternité. D'accord? Donc, à travers ces moments difficiles-là, qu'on peut vivre dans un petit groupe, par exemple, la personne se retire, tout ça, c'est lourd à vivre, mais c'est un acte d'amour. C'est la même chose qu'un parent va faire lorsqu'il va corriger son enfant. C'est pas, ça peut être fait sans amour, mais en principe, ça doit être un acte d'amour. D'accord? Enfin, lancez l'invitation à 2 ou 3 personnes de se joindre à vous pour la formation de disciples. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va prendre des cafés? Prendre un café avec un gars, jase ensemble, ça t'intéresse-tu, on explique si la personne ne l'a jamais vécu, c'est ouf, c'est engageant, ouais, je sais pas. Si on a entendu parler, des fois les gens attendent après ça, ils désirent ça, y a-t-il un groupe dans lequel je pourrais me joindre? Mais donc, ça veut dire qu'il y a de la préparation à tout ça, tu sais, ça va être un café, 2 cafés, 3 cafés, puis moi je veux pas de réponse finale là. Parce que je mets toujours un petit peu plus de pression sur la qualité de l'engagement. Je vais prendre un café avec Régent, puis Régent, il dit, oh, oui, je commence la semaine prochaine. Prie là-dessus, mon homme. Parce que tu n'aimeras pas ça quand on va parler de tes péchés, là. Fait que, prie là-dessus, tu sais. Fait que, je veux pas d'engagement dans le premier moment où on s'en va ensemble. Je veux que la personne prie là-dessus de son côté. Moi, ça fait déjà un bout de temps que je prie. C'est ça. Là, après ça, il y a toute une question un petit peu complexe, là. En tout cas, pour plusieurs. Les gens le vivent de manière complexe, c'est que souvent les coachs essayent de faire un match où tous les participants vont sentir qu'ils sont chez eux et qu'il y a des affinités avec tout le monde. Personnellement, je refuse de faire ça. Je ne le vois pas dans les Écritures. Notre affinité qu'on a ensemble, c'est Jésus. D'accord? Fait que moi, j'accepte l'idée. Je l'ai vécu dans mes groupes. Là. J'ai eu des groupes vraiment disparates en termes d'âge, de culture. Ça mettait vraiment de la pression sur le groupe au niveau du partage. Bruno était dans un des groupes avec nous. Il y avait même des personnes qui étaient là, c'est comme, ils coupaient tout le temps les partages. Ils coupaient parce qu'ils faisaient la morale à tout le monde tout le temps. Toutes les bonnes réponses. Mais t'es chrétien, fait que tu fais ça. T'es chrétien, tu fais ça. Regarde, essaie de s'ouvrir. Peux-tu écouter 2 minutes? Fait que je pourrais décider de dire, non, écoute, j'ai une bonne chimie, je veux que la chimie marche, tout le kit. Ça, je l'ai fait quand j'ai décidé de marier Esther. Pour le reste, à la porte ici, on ne dit pas aux gens, je pense que tu ne fites pas ici, pas de la bonne couleur, pas de la bonne grandeur, pas de la bonne âge, tu ne t'habilles pas bien, fait que je pense que tu ne rentres pas ici. Tu aimes Jésus, c'est bon, tu t'en viens ici. Fait que ça va être un défi, je vous le dis, parce que vous avez des barrières dans votre tête où vous dites, non, faut que ça fitte plus que ça, là, parce qu'autrement, on ne s'ouvrira jamais. Ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps avant que les partages deviennent sérieux. Ça se peut que à la fin de l'année, vous dites, moi, mais si j'avais eu un meilleur match, je pense qu'on serait allé beaucoup plus loin. Si on persévérait toute l'année et qu'ils croient encore à la formation de disciples, après, vous leur avez enseigné quelque chose de super important. Là. C'est ça, faire des disciples. C'est aimer des gens qui sont différents de nous. C'est avancer ensemble, au rythme du groupe aussi. Fait que oui, dans ces groupes-là, admettons dans une situation comme celle-là, j'ai des gens qui, s'ils partaient puis disaient, ils faisaient une liste de toutes les choses qu'ils ont apprises puis qu'ils ont acquises, il y aurait moins d'acquis qu'ils verraient parce qu'ils étaient plus avancés que d'autres puis ils semblaient être ralentis. Bon, mais c'est correct, je suis en train de leur apprendre. C'est quoi? C'est quoi faire de la formation de disciples? C'est s'investir. Donc, je vous dis, vous allez avoir une barrière dans votre tête, vous allez dire, lui puis lui, je ne pourrais pas les faire avancer ensemble. Moi, personnellement, je n'accepte pas ça pour moi, là, parce que je ne le vois pas dans les Écritures. D'accord? Ça crée des situations particulières. Je pense que ça crée des places où l'Évangile, la beauté de l'Évangile, peut vraiment se manifester. D'accord? Fait qu'il y a des églises aujourd'hui qui s'implantent, sont pour une génération, avec un style de louange, avec un éclairage comme ci, comme ça, puis that's it. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec les Écritures, cette affaire-là. C'est pas là dans la Bible, du tout. Fait que, il faut que ce soit pour toutes les générations, toutes les cultures, des gens de n'importe où, que Dieu dirige ici. Puis nos groupes de coaching devraient ressembler à ça aussi. Si vous avez des questions, des commentaires sur ça. Oui, Gerard.
Le but de tout l'exercice, c'est développer la compassion et l'amour.
Oui.
Et souvent, qu'est-ce que tu dis, là, c'est qu'il y a des gens qui sont plus faibles que d'autres. Et il y en a qui se pensent très forts. Et c'est là qu'il y a l'incompatibilité de caractère au début. Mais si on compatit, on travaille à compatir les uns envers les autres et à supporter les faiblesses de l'un et à aider celui qui est plus fort à devenir plus fort.
Oui.
OK? C'est le but de devenir des disciples et chercher la direction que Dieu nous donne.
C'est de marcher ensemble. Fait que c'est ça. Fait qu'on a tendance à l'accepter dans la grande assemblée. D'accord? On va l'accepter encore dans un petit groupe. Ouais, lui, dans un petit groupe, c'est jamais intéressant quand il dit quelque chose. Tu sais, tu le laisses parler. Il prend toujours trop de place. Il est toujours en train de parler. Esther apprenait un cours ici hier, puis elle dit, hey, un monsieur pose des drôles de questions. Puis il a de l'air comme de déranger le groupe. Tu sais? Fait que c'est comme dans la grande assemblée, pas de trouble, il s'assoit là-bas, je m'assois là-bas, tout va bien. Lui, il lève un petit peu trop les bras, fait que je vais me déplacer dans mes jambes. Dans le petit groupe, une fois par semaine, c'est pas trop engageant. S'il y en a un qui est toujours en train de couper, ben je m'ouvrirai moins, c'est tout. Ça va finir là, tu sais, je m'exposerai pas à me faire sermonner à toutes les fois par monsieur le moralisateur qui a toutes les bonnes réponses. Mais là, dans un petit groupe de coaching, par exemple à 3-4, là, ouf, je suis pas sûr que je vais aller là. Au contraire, allez-y, puis adressez les choses. D'accord? Puis faites taire la personne qui n'a pas la bonne approche. Enseignez-la. Mais c'est exigeant. Ça va? Oui? Tu veux exposer mes échecs?
C'est temps de parler. Moi, j'aurais tendance à... Je comprends très bien, puis oui, je vais nuancer de ce que je pensais, mais j'ai toujours plus tendance à penser qu'il y avait quand même des matchs qui ne marchent pas.
Oui.
Puis, le pourquoi je dis ça, c'est que la preuve, c'est peut-être même toi, avant d'en coacher certains, tu as pris du temps, peut-être plus pour prier comme il faut, pour être sûr que oui, tu voulais embarquer cette personne-là dans le groupe. Donc, il y a quand même des matchs qui sont faits que tu dis, ouf, je suis pas sûr pareil parce que la situation du groupe, lui, ne fait pas dans ça présentement, tu comprends-tu? Je sais que je suis pas super clair dans ce que je dis, mais
non, je pense que
tu peux comprendre.
Oui, puis je vais développer sur ça, c'est un bon point. OK, oui, je suis en train de... Mon idée n'était pas complète, merci Bruno. Pourquoi est-ce que je prie? C'est parce que je pense qu'il faut que Dieu dirige les situations. Fait que je vais vous donner un exemple. J'ai quelqu'un qui arrive, puis il veut faire du coaching, puis tout ça, il est en dépression majeure. Ça se peut que je lui dise, regarde, tu t'en viens pas dans une triade ou dans un quad, c'est pas le bon moment, là. On va prendre du temps avec toi un à un, on va t'aider à grandir un petit peu. Donc, oui, il y a des situations qui ne fonctionneront pas, puis où je devrais discerner. Ce que je veux pas faire, c'est que je veux pas le faire juste avec mes peurs humaines puis avec ma sagesse humaine. Je veux pas regarder juste à ce qui frappe les yeux. Je veux laisser Dieu diriger dans la rencontre. Donc, c'est pour ça que dans ma démarche, je prie. Si je suis dans un petit groupe, je vais jaser, mettons, avec les dirigeants du groupe pour avoir un peu de conseils. Ils connaissent les gens, tout ça. Si la personne est impliquée à quelque part dans l'église, ça se peut que je parle avec quelqu'un de ressources qui la connaît. Je m'en vais prendre un café. Ça se peut qu'après un café ou deux cafés, je dise, sais-tu, je pense que ce n'est pas le bon timing, parce que vraiment, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas, d'accord? Mais je ne veux pas le faire avec mes peurs, je ne veux pas le faire avec des préjugés de ce qui frappe les yeux, je ne veux pas le faire parce que je dis les barrières à surmonter pour s'ouvrir sont trop grandes, admettons. ça serait plutôt des choses du genre, si c'est pas clair pour moi que la personne est au Seigneur, évidemment, ça je l'ai mentionné. Si la personne, clairement, je sens qu'elle me dit qu'elle veut s'engager, mais je sais qu'il y a un péché dans sa vie qu'elle veut pas mettre sur la table, puis qu'elle sera pas prête à mettre sur la table si on se retrouve à 3-4. Si la personne est dans une condition qui fait que... Fait qu'après ça, là, honnêtement, là, c'est pas mal à la grâce de Dieu. Je prie, ça peut arriver. J'ai pas d'autres exemples concrets qui feraient que je dirais « Non, ça marchera pas. » J'en ai pas d'autres. T'en as-tu une en tête, toi? Oui, c'est bon. Non, non, c'est bon. Oui, c'est ça, c'est bon. Ce que vous voulez pas, OK? Si vous vous dites « Je mettrai pas ces gens-là ensemble, parce qu'ils sont trop distants pour pouvoir se rejoindre. » Le choix inconscient que vous faites à ce moment-là, c'est que vous ne pourrez pas exposer l'Évangile autant que vous voudriez le faire, parce que vous empêchez une opportunité de vivre davantage. Quand je parle de l'Évangile, là, je parle du Dieu qui nous accueille à travers Jésus-Christ. J'accueille mon frère pécheur à travers Jésus-Christ. Je renonce à tous les murs de séparation entre les cultures, entre les âges. Christ est venu faire tomber ces murs-là. Si à cause que je vois ces murs-là, je décide de ne pas rassembler ces gens-là ensemble, il y a une profondeur à l'Évangile, en tout cas de ce côté-là, que je ne pourrais pas exposer. D'accord? Et ça, pour moi, là, ça, je ferais vraiment attention avant de gober ça. C'est plus mes peurs à moi que je projette. C'est mon manque de confiance dans ce que le Seigneur peut faire à travers ça. Ça va? Merci. Oui, mais à la fin, c'est mon jugement à la fin, mon jugement à moi, mais à la fin, quand je prie, je veux dire, la direction de Dieu, ça demeure très subjectif. Tu sais. Fait que pour moi, OK, comment est-ce que je fais, là, c'est parce qu'on embarque dans tout un autre sujet, comment est-ce que je fais pour discerner la direction de Dieu puis la volonté de Dieu? Je pense qu'il y a quelques ingrédients qui sont importants. La parole de Dieu, la prière, chercher des conseils, puis le temps. D'accord? Quand vous combinez ces quatre choses, n'importe quoi, tu veux t'acheter une maison, tu te cherches un job, tu fais n'importe quoi, tu prends ces quatre affaires-là, d'accord? La parole de Dieu, est-ce qu'il y a des préceptes qui sont clairs? Moi, je dis que lui qui vient de telle culture, avec lui qui vient de telle culture, on ne pourra pas fonctionner ensemble. Va lire ta Bible, man. La parole de Dieu est claire. Je suis désolé, ce n'est pas biblique ce que tu viens de dire. La parole de Dieu est claire. Première chose pour connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, la prière. Parce qu'à travers la prière, je crois que Dieu répond. Je crois vraiment que Dieu répond. À travers la prière, j'entends ce que moi je pense de Dieu puis ce que je pense de la situation. Les conseils, donc le troisième, je vais chercher des conseillers qui voient des choses sur moi, qui voient des choses sur les gens autour. C'est la beauté de travailler en église. Puis quatrièmement, le temps. Parce que le temps, c'est toujours ça qui dévoile la vérité sur les choses, sur les gens. D'accord? Donc si je me précipite, il y a des choses que je ne verrai pas. Mais si je laisse un peu de temps s'écouler, puis un petit peu plus que j'aurais voulu, souvent, il y a des choses que je vais voir. Puis à travers ça, en général, j'arrive à discerner la volonté de Dieu, la direction de Dieu. Ça va? Merci. Alors, lors de la première rencontre, bien, vous voulez vous entendre sur l'engagement que vous prenez ensemble. On va voir à travers le cours un formulaire d'engagement. Je ne suis pas rendu à tout réviser. Il y a certains chapitres que je n'ai pas révisé encore. Ça se peut que j'ajuste des petits trucs dans ça avec l'expérience, là. Mais moi, personnellement, je crois vraiment à un engagement qu'on a tous lu puis idéalement tous signé. D'accord? Puis je sais que ça peut faire gaga, tout ça, mais on vit à une époque où on s'engage comme ça. Si vous dites, non, 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 la Bible a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, t'essayeras ça avec le notaire. Tu vas voir. À notre époque, tu signes, c'est ça ton oui puis c'est ça ton non. Fait que moi, j'y crois personnellement. Mais le minimum, c'est qu'il faut s'entendre clairement sur nos engagements. S'ils ne sont pas écrits, les écrirestes, les paroles s'envolent. Donc, c'est quoi? À quoi on s'engage ensemble? On s'engage à se voir à toutes les deux semaines. On s'engage à lire un livre ensemble, donc à avoir fait nos lectures avant de se rencontrer. On s'engage à être transparent. Puis si je ne suis pas capable de parler de quelque chose, je vais dire, je ne suis pas prêt à en parler. Pas de problème. C'est à quoi on s'engage ensemble? On s'engage pour combien de temps ensemble? D'accord? Ça fait toute la différence. Puis quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre un engagement aussi clair que ça, moi, je retombe sur le mode des cafés ponctuels. D'accord? Prendre un café ensemble, on continue à jaser. Mais autrement, ça, il va y avoir beaucoup de déceptions. Donc, la première rencontre vise à confirmer ensemble, si on est 3-4, l'engagement les uns envers les autres. Est-ce que ça va? C'est bon? Puis c'est important, les premières rencontres, vous donnez le ton pour toute la suite. Après, c'est difficile de changer les choses. Il faut comme changer la culture qui s'est installée. Donc, pour moi, première rencontre, je confesse un péché, c'est sûr. C'est certain que je vais confesser un péché. Parce que je veux donner le ton. Je veux que tout le monde soit transparent. Je vais leur demander de prier pour un domaine dans ma vie où il y a des défis pour moi. Puis je sens que j'attriste Dieu lorsque je pêche dans ce domaine-là. Je veux donner l'exemple. Je veux communiquer ça aux gens qui sont avec moi, d'accord? Donc, dès les premières rencontres, donner le ton en partageant des requêtes de prière personnelles, éventuellement en confessant avec sagesse certaines luttes personnelles. Votre humilité, votre transparence produiront des fruits à vie pour les gens, d'accord? Si les gens ont juste appris ça du coaching avec vous, à être transparent, à aller confesser les péchés les uns aux autres, vous venez de faire des chrétiens qui sont différents des chrétiens nord-américains. Ça va? Vous venez d'aider cette personne-là à être un petit peu plus biblique. Parce qu'on ne confesse pas les péchés les uns aux autres. D'accord? Quand on est dans le trouble, on va chercher de l'aide puis on crache le morceau parce qu'on est mal pris. Ce n'est pas ça le concept biblique. C'est confesser mes péchés pour que quelqu'un marche avec moi. Quelqu'un me dise l'Évangile. Quelqu'un me dise que je suis pardonné, qui m'encourage à persévérer puis qui prenne des nouvelles. D'accord? Donc, c'est super important dès le départ de donner le ton. Après quelques semaines, on essaie de partager le plus possible des morceaux de ce qu'on fait dans la rencontre. Il faut que je passe le micro à d'autres personnes. Puis moi, je le fais là, très, très tôt. J'essaie de passer le micro. Ça va devenir... Soit qu'ils vont prendre des morceaux officiels de la rencontre. On discute sur un livre. C'est eux qui vont diriger la discussion sur le livre. Un autre va diriger le temps de partage, de prière, de redevabilité. Ou soit que ça va être plus libre comme soirée. Mais régulièrement, moi, je ne donne pas de réponse. Je vais dire, OK, qu'est-ce que t'en penses, John? David a partagé ça, ça serait quoi ton conseil? Puis, fait que c'est ma manière à moi de passer le micro puis juste de me retirer. Parce que je veux qu'ils apprennent dès le début, c'est quoi? Puis, dans le fond, lorsqu'on va arriver à la fin de notre course ensemble à se reproduire, puis je vais leur dire, OK, tu t'en vas-tu faire de la formation de disciple? Mais la personne, ça fait déjà 1 an, 2 ans qu'elle en fait. Parce qu'elle a assumé tous les rôles avec nous. C'est devenu une seconde nature. Elle sait qu'elle ne va pas mourir parce qu'elle donne un conseil. Puis ça se peut qu'elle se trompe dans son conseil. Puis ça juste va être dans tout le groupe ensemble. Donc, rapidement, on partage les responsabilités. Là, l'élément, je l'ai mentionné à la dernière leçon. Les initiatives qu'on prend en sous-groupe comme ça s'inscrivent dans la vie de toute l'Église. D'accord? Une des choses qu'on perd de vue, c'est qu'on n'apprend pas à puis notre vie chrétienne, nous, en général, on la réfléchit pas comme ça. On n'apprend pas à réfléchir la croissance des gens à qui on s'investit dans le cadre de toute l'Église. À toutes les sessions ici, il y a des cours bibliques le dimanche matin. D'accord? Il y a des ministères, il y a des places où il y a des besoins. Fait que, apprenez, lorsque vous coachez quelqu'un, à penser à sa vie chrétienne à l'extérieur de votre rencontre puis dans la vie de toute l'Église. Quand il arrive une nouvelle session, prenez le temps de discuter quel cours tu vas aller faire cette session-ci. Si c'est un cours où la personne va être super challengée, peut-être que vous allez décider de l'accompagner dans ce cours-là. D'accord? Mais il y a des cours à toutes les sessions, il y a des ressources pour grandir, il y a des cours de Sambec qui sont plus avancés avec notre séminaire qui se donne ici dans l'Église. Donc, il y a plein de ressources, d'accord? Puis il y a des ministères où tu peux aller t'impliquer. Une des choses qu'on va le voir là, dans l'autre leçon, mais on veut mettre en pratique. Fait que j'apprends à inviter les gens à rentrer dans mon service à moi, dans mon implication à moi, dans des opportunités. La majorité d'entre vous est probablement au courant que notre frère Jean-Claude Cabana est allé rejoindre le Seigneur. J'avais un regret cette semaine, c'était le seul, parce que j'ai eu des beaux moments avec la famille, des beaux moments avec eux. Il est parti, puis j'ai dit, je n'ai pas amené Adam avec moi une seule fois. Je n'ai pas amené Adam, qui est en formation, une seule fois avec moi pour aller visiter. J'étais déjà allé visiter Jean-Claude avec Adam. Adam, c'est le jeune qui est en formation. On l'avait déjà fait il y a quelques mois. Mais je parlais après avec Adam, puis je dis, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un chrétien partir rejoindre le Seigneur avec autant de paix. Puis c'était vraiment beau. J'aurais aimé ça que tu sois là avec moi, puis que tu vives ça avec moi. Fait que je n'ai pas eu la présence d'esprit, voyez-vous, de dire, je suis en train de coacher quelqu'un, puis je pourrais juste l'inviter à se joindre à moi. Puis ça, c'est une seconde nature qui... Vous voyez, moi aussi, j'en échappe, là. Mais c'est juste une seconde nature à développer, d'inviter les gens à s'impliquer avec nous dans le cheminement. Je suis vraiment slow, hein? Laissez-moi juste aller au... On va couvrir au moins le premier ingrédient. Donc, on va à la leçon 4. Merci, Paul. Merci. Merci. C'est super. Merci. OK, on va juste regarder les premiers éléments en haut, puis on va les développer. Là, soit dit en passant, la semaine prochaine, il n'y a pas de cours à cause de la relâche. On prend une pause un dimanche. Fait qu'on se revoit le 6 mars, puis on va continuer cette leçon-là. La formation de disciples, ce n'est pas un programme, c'est une relation. D'accord? Donc, il faut que vous le voyez comme ça. Dans le cours, là, on va l'ajouter à la fin. Cette fois-ci, on va vous donner plus de ressources qui vont vous donner comme une programmation un peu. Mais clairement, dans les principes que Jésus avait dans la formation de disciples, c'est hyper secondaire, ça. D'accord? Parce que des ressources pour grandir dans des domaines, là, je dirais, avec les bibliothèques puis avec les livres chrétiens qu'il y a maintenant de super bonne qualité, on peut vous fider à l'année totalement. Ce qu'on veut, c'est que les gens intègrent dans leur vie des principes qui vont les lancer sur une voie d'autonomie dans leur foi. C'est ça qu'on veut. On veut leur donner des outils qui font qu'ils vont être capables d'aller se nourrir eux-mêmes, puis grandir, puis après ça, ils vont fonctionner dans la vie de l'Église. Donc, la formation de disciples, ce n'est pas un programme, c'est une relation. Les disciples, la formation de disciples, c'est un processus de transformation. Il y a des gens que vous allez avoir le sentiment de ne pas avoir fait avancer, presque pas. Il y a des gens que vous allez avoir vu grandir énormément. Ce n'est pas vous le coach principal des gens, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Christ s'est engagé à nous conduire à maturité. C'est une œuvre de l'Esprit en nous. On utilise le terme « coach » parce que je vois dans les Écritures l'idée d'enseignant. Il y en a qui vont être des enseignants. Je vois l'idée de prendre comme une certaine autorité sur un groupe, des choses comme ça. On le voit dans les Écritures. Mais honnêtement, spirituellement, le coach, c'est le Saint-Esprit. Il faut accepter que les gens que je suis en train d'accompagner sont dans un processus. Et la beauté de la chose quand ça se vit à travers l'Église, c'est que dans une Église locale, c'est que ce processus-là est à long terme. D'accord? Mais je pense à des gens dans les dernières semaines, on a des gens qui ont quitté pour le travail. Je pense à Sam, à Solène, ils vont prendre un travail à Sherbrooke. Tout à l'heure, on va voir la rencontre annuelle des membres, puis on va voir des gens qui nous quittent pour aller servir ailleurs, tout ça, puis on va partager ça. Sam et Solène m'ont dit, j'ai dit, ça fait combien de temps que vous êtes ici? 2 ans? Ils ont dit, non, ça ne fait pas tout à fait 1 an. OK, ça a été short and sweet. Mais Solène, elle m'a dit, Yannick, on a énormément appris ici. On a beaucoup appris. Eux se sont impliqués dans les petits groupes en mission avec les jeunes adultes, à travers les enseignements, tout ça. Ils ont dit, on a énormément appris. Je pense à Virginie. Pascal, merci. Schneck, j'avais juste Schneck. Qui sont repartis en Suisse, d'accord? Ils ont appris dans leur passage ici. Fait, il faut que j'accepte l'idée que le coach, c'est le Saint-Esprit. Puis, moi, je suis juste comme un espèce de simili-coach. Mais c'est un processus. On est engagé dans un processus. Puis c'est pour ça aussi, on va le dire un peu plus loin, mais c'est pour ça que moi, je vous encourage après un temps donné. Si vous êtes engagé pour 1 an, c'est 1 an. Si c'est 2 ans, c'est 2 ans. Mais après 2 ans, là, on arrête ça là. On continue avec des cafés de temps en temps. Dans un sens, mon engagement de cœur envers les gens de qui j'ai été proche comme ça, moi, il n'arrêtera jamais. D'accord? C'est jusqu'à la mort dans ma tête. Puis c'est comme ça que je le vis. Puis c'est comme ça que j'ai à cœur. Fait qu'il y a des gens, personnellement, là, Maxime Larose est à Seattle. Si j'oublie un mois d'y envoyer un courriel, je me dis, tableau, je me suis tellement investi, on était proches, faut que je prenne des nouvelles, faut que je sache si ça va bien. Fait que de cœur, je suis toujours là, mais après 2 ans max, là, plus de rencontres régulières. Je les laisse aller. Ce que je n'ai pas réussi à leur donner formellement en 2 ans, je n'arriverai pas à leur donner avec 3 mois de plus. Quand je les laisse aller, on va prendre une autre forme qui va être plus sporadique, peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un d'autre. Puis c'est avec cette personne-là qu'ils vont faire le prochain bout de chemin qu'ils ont à faire, d'accord? Ce sont pas à moi, ce sont pas mes enfants. Ils sont au Seigneur, d'accord? Puis j'ai pas comme à installer une relation de dépendance.
Il faut quand même être flexible.
Il faut quand même être flexible. Tu as quelque chose en tête?
Ben, moi, j'ai coaché depuis 3 ans, puis c'est la 3e année que ça a bougé.
Tu veux-tu juste le répéter, s'il te plaît? Il faut être flexible dans le sens qu'on voit le processus de croissance, puis des fois, on a pris un plateau aux 2e année, puis on se dit, on va faire une 3e année, puis oui. C'est là que ça débouche. Là.
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mais si je décide de prolonger, Il faut que ce soit très clair qu'est-ce que je suis en train de faire. Il faut que je sache où je m'en vais. Quand on fait les rencontres de débogage, là, puis tu sais, là, tu m'as sûrement déjà entendu le faire dans les rencontres de débogage, mais quelqu'un qui me dit « Ouais, on est rendu à tel temps, puis tout ça, puis je veux continuer », moi, je challenge. Je challenge les personnes. C'est mieux d'être clair pour toi pourquoi tu es en train de faire ça encore. OK? Parce que c'est comme s'il y a une routine qui s'installe. C'est correct de casser ces routines-là. C'est correct de laisser la personne aller. Quelqu'un vient vous voir et dit « Hey, je veux que tu me coaches. » Il y a un jeune homme qui était venu me voir et me dit « Yannick, j'arrive pas à grandir. Tu coaches des gens. Moi, j'ai jamais vécu ça, tout ça. » Je connaissais cette personne-là. Je savais comment c'était une tête de cochon. Je m'excuse le terme. Je l'aime beaucoup, là. Mais tête dure. J'ai dit « Je peux rien faire avec toi, mon vieux. Je peux rien faire avec toi. Le Seigneur t'a pas cassé. Je peux même pas t'aider. » Je l'ai laissé partir. Il est revenu me voir, X temps plus tard. Il était brisé. Je pense qu'il n'était pas encore assez. Après y avoir réfléchi plus tard. Là. Mais, Jésus faisait. Je ne me prends pas pour Jésus, mais j'essaie d'appliquer ses principes. Qu'est-ce qu'il a fait avec le jeune homme riche? Il l'a laissé partir. D'accord? Parce qu'il y avait des décisions à prendre avant de s'engager. Ça va? La formation de disciples vise la poursuite de la mission, soit la reproduction. Alors, si quelqu'un vous dit, moi, je te le dis tout de suite, je veux qu'on se rencontre, mais je ne ferai jamais ça, diriger un groupe. Si elle tient à faire ça, moi, je ne m'engage pas avec cette personne-là. La personne a le droit de me dire, j'arrive pas à croire que je vais être capable de faire ce que tu fais. Ça je peux vivre avec un manque de foi. C'est pas de problème. Si la personne me dit, moi, je ne le ferai jamais, je veux juste recevoir ici, personnellement, je ne le fais pas. Je ne m'engage pas avec cette personne-là. Mon objectif à travers ça, c'est de faire de toi un chrétien mature, de t'aider à grandir dans ta maturité. Ça veut dire que tu vas être quelqu'un qui va chercher à te reproduire. Un chrétien qui, après 5, 10, 15, 20 ans de vie chrétienne, ne cherche pas à se reproduire, c'est pas un chrétien mature. Un chrétien qui manque de maturité. Vous ne trouverez pas de place dans les Écritures pour le contraire de ça. Chacun avec nos dons, chacun avec nos capacités. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'on va tous être des pasteurs ou qu'on va tous être des coachs. Mais j'ai une vision de prier pour des gens, de leur annoncer l'Évangile, de les voir faire un bout de chemin, chacun avec ses dons, avec ses capacités. Puis on va s'arrêter ici. Dans deux semaines, on va voir ensemble les 5 ingrédients de la formation de disciples. C'est bon? On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, merci pour ce beau groupe qui est ici ce matin. Merci Seigneur pour cette assemblée. Merci surtout Seigneur Jésus pour ta grâce. Alors qu'on traverse des principes de formation de disciples, on veut pas perdre de vue, Seigneur, que c'est seulement en s'appuyant sur ta grâce que nous-mêmes, on arrive à persévérer dans la foi. Ce matin, Seigneur, tu m'as entendu prier à plusieurs reprises, m'appuyant sur ta grâce, sur toi, pas sur moi-même, Seigneur, parce que par moi-même, je me sens absolument incapable d'accomplir la tâche qui m'a été confiée, Seigneur. Alors, on veut s'appuyer sur toi, on veut savoir et se rappeler que c'est l'Esprit Saint qui nous forme nous-mêmes comme disciples, Seigneur. Et je te prie, Père, pour chacune des personnes qui sont dans le cours ici, je te prie, Père, de les faire grandir dans leur foi. S'ils ont un défi de ce côté-là, s'ils craignent de s'engager, de s'avancer, fais-les grandir dans leur foi, Seigneur. Enseigne-nous ces principes, enseigne-nous, Seigneur, à se les approprier, à les intégrer dans notre vision de ce que c'est un disciple et la formation de disciple, afin que ça devienne une seconde nature, qu'on puisse commencer à le déployer même avec des collègues de travail non chrétiens, Seigneur, avec nos enfants, avec notre conjoint, avec des amis dans la foi, avec des frères et sœurs dans l'Église, Seigneur, dans les rencontres de petits groupes. Enseigne-nous à devenir plus intentionnels pour s'engager comme ça, s'investir. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.